Jean Tellet, avant de parler de votre nouveau livre « Comme une respiration » et de ses 40 histoires, hein, courtes avec Bernard Lehu, dites-nous quelle est à titre personnel votre respiration préférée, celle qui vous est indispensable, que vous pratiquez le plus souvent ?
Tous les jours d'une manière... je sais pas trop en fait.
À quel moment vous mettez entre parenthèses dans votre tête ?
J'essaye de le faire au moment de dormir, mais là en ce moment, comme je suis en pleine sortie de livre et ouais. tout, donc c'est un peu sportif. Ça demande une pression, donc j'ai un petit peu de mal à m'endormir, mais je vais pas m'en plaindre. Il y a tellement d'écrivains quand ils sortent leur livre, tout le monde s'en branle que je vais pas commencer à pleurnicher parce que je fais plein de choses.
En effet, ça me semble raisonnable. Alors Bernard, je le disais en titre, oui. Jean Tellet, c'est une première, hein, l'exercice de la nouvelle avec ce recueil intitulé Comme une respiration et qui est publié donc chez Julliard.
Mais oui, 40 nouvelles, 40 textes tour à tour poétiques, farfelus, émouvants, 40 grandes petites histoires. Mais oui, car elles en disent long sur la vie d'aujourd'hui. Alors vous aviez pris l'habitude ces dernières années de nous raconter l'histoire de France, le Montespan, Charles IX ou Héloïse et Abélard dans votre style si personnel. Jean Tellet, pourquoi ce brusque changement de genre? Qu'est-ce qui vous arrive ?
J'en avais marre de raconter des horreurs parce que je trouve que là, dans les actualités, il y en a quand même pas mal. Voilà, exactement. Et je pensais, par exemple, à vous ce matin, Yves, en venant, je me disais que vous savez tous les matins quand vous vous levez qu'à votre travail, vous allez prononcer le mot mort. Et je pense que aujourd'hui, vous aussi, ce matin, vous avez dû le prononcer. Et donc, on vit là-dedans. Et puis moi, j'avais raconté donc les trucs sur la Saint-Barthélemy, un mec qui se fait bouffer dans un village, un autre qui se fait couper les couilles, une tueuse bretonne qui zigouille tout le monde. Au bout d'un moment, j'en avais ma claque. Et j'avais envie de raconter d'aller voir du côté des belles choses de la vie. Et j'avais envie de rencontrer des gens d'aujourd'hui. Et mon éditeur me dit, t'es marrant parce que toi, quand t'es déçu par l'humanité, tu vas voir les gens. Et parce que les gens, ils sont en fait formidables. Quand on les prend individuellement et tout, ils sont pleins de ressources, ils sauvent leur peau comme ils peuvent et tout, c'est assez magnifique.
Alors si je comprends bien ce livre, ça n'est pas vous qui l'avez écrit alors. C'est un livre des gens.
Oui, ce sont que des histoires vraies.
Et, toutes
des histoires vraies. Il n'y en a pas une d'inventée. Et avec des histoires, avec des enfants, des jeunes gens, des personnes âgées. Et je demandais à tous ces gens-là, est-ce que vous êtes retrouvés à un moment dans votre vie, dans une situation où quelque chose va vraiment pas bien, mais où à la fin, waouh, on respire. Et je me dis que la période en ce moment est tellement étouffante que j'ai l'impression qu'on a besoin d'un bol d'air et donc c'est ce que je propose. Quoi.
Votre troupe de musiciens vraisemblables qui partent pour faire un voyage low cost, ils ont mis leurs 6 couches de vêtements les uns sur les autres.
Exactement.
Pour pouvoir prendre l'avion.
Exactement. Et oui, c'est ça, parce qu'ils prenaient un avion low cost et on a droit qu'à un seul bagage. Ils allaient faire un spectacle. Il y avait un danseur qui avait plein de vêtements.
C'est plus, à pleurer de rire.
Plus des instruments de musique. Ouais. Ils ne pouvaient pas avoir les deux bagages et tous ses copains se sont habillés avec ses vêtements.
Donc transformés en bibandons.
Voilà,
il y avait toutes les couches de vêtements. Voilà.
J'avais envie de raconter des histoires solidaires comme ça.
Mais comment les avez-vous collectées justement, ces histoires positives et qui nous donnent une vision de l'humanité qui fait du bien,
en fait. Je me balade beaucoup en province pour faire des dédicaces dans les librairies ou dans des salons du livre et je demandais aux gens, presque à tous les gens que je rencontrais, est-ce que vous avez une histoire, et puis toutes celles qui me semblaient bien, je les ramassais. Comme par exemple, j'ai appris, il y a une histoire qui s'appelle Lui, d'un petit garçon de 9 ans qui découvre son prénom à 9 ans.
Ouais.
Un gamin
qui a eu
des problèmes psychiatriques, qui se trouve dans une école comme ça en insertion et tout. Et tout le monde l'a toujours appelé débilos, neuneux, gogol, lui, toi. Mm. Et le mot m'arrive à 9 ans, il sait pas son prénom. Et un jour, il y a une dame qui décide de lui faire apprendre son prénom. Et il l'apprend. Et alors là, il est le champion du monde des enfants qui connaissent leur prénom. Et c'est une victoire. Et voilà, c'est des respirations comme ça que j'avais envie de raconter.
Mais c'est ça qui est formidable, c'est que ça part souvent de presque rien, d'une scène, de toute petite chose. Et puis finalement, ce sont des histoires qui nous disent beaucoup de la vie. Il y en a une, j'aime bien aussi, je crois que c'est la deuxième, hein,
oui.
dans le cueil de nouvelles.
Vécu,
c'est Gare Saint-Lazare.
Ça, j'ai vécu ça.
Et ça, elle bouscule tous nos préjugés.
Un jour, j'étais en dédicace à Rouen, il y avait plein de monde, donc du coup, j'ai dû prendre le dernier train. J'étais tout seul dans un compartiment de première, sauf une fille qui était de l'autre côté de l'allée, une fille de 19 ans à peu près, avec une grosse valise orange. À Mantes-la-Jolie, monte 4 mecs, mais des caricatures de trucs de banlieue, comme on imagine. Les mecs arrivent, commencent à mater la fille et tout. Ils avaient Booba sur une épaule, comme ça, qui chantait, qui gueulait des trucs. Donc, je suis dangereux, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par dangereux et tout. Et puis, ils commencent à mater la fille, à dire des conneries, puis ils se lèvent les uns après les autres, tous en se remontant les couilles quand il se passe loin. Moi, j'assiste à ça, j'ai dit, putain, ça va tourner au fait divers, cette histoire. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je peux pas laisser une fille se faire violer, moi, je peux plus dormir de la vie.
Vous êtes seul avec ces jeunes gens et cette jeune fille.
Et je me dis, il faut que j'intervienne. Mais les quatre mecs, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, ils ont 20 ans, ils sont taillés comme des athlètes. Je me dis, je vais me faire massacrer, quoi. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Je me dis, normalement, moi, j'étais censé rentrer chez moi tranquille, pas finir ni à l'hôpital, ni à l'Institut médico-légal du Quai de la Rapée. Et puis, je me dis, alors, qu'est-ce que je fais? Il doit y avoir un signal d'alarme. Donc, il faut que j'essaye de tirer le signal d'alarme. Ou bien, peut-être qu'il y a un petit marteau quelque part, vous savez, pour les brise-huit. Et je prends le petit marteau, puis je le rentre dedans. Mais forcément, ça va mal se passer. Et je me fais tous ces films-là. Puis finalement, le train arrive à la gare Saint-Lazare. La fille traîne sa grosse valise à roulette. Et les mecs se lèvent. Et il y a un des mecs qui dit à la fille, tu veux que je descende ta valise? Il prend la valise. Il fait, putain, elle est vachement lourde. Et la fille les regarde en disant, en tout cas, vous êtes gentils. Moi, je me dis, ils vont la suivre, ils vont l'emmerder. Pas du tout. Il s'allume un pétard sur le quai, puis il la laisse partir. Et là, je me dis, à quoi je viens d'assister, ce n'est pas le monde qu'on nous raconte. Ouais. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. J'ai dit, et c'est là que je vais aller demander à des gens s'ils ont vécu des respirations, parce que moi, j'en ai vécu une à la gare Saint-Lazare, là, avec ça.
Alors, une autre respiration, une autre histoire. Et là, je suis sûr, vous ne l'avez pas collectée auprès d'un de vos lecteurs ou de vos lectrices, que c'est une scène à laquelle vous avez assisté. Écoutez ça, ça va vous le rappeler.
Mais oui.
Petite fleur, c'est des léchettes. Allez, en quelques mots.
Dans mon quartier, il y a des musiciens qui jouent et tout. Puis un jour, je vois une dame qui revenait du marché, une petite mamie et tout. Puis elle pose son sac et puis elle se met à côté d'eux et elle se met à danser comme ça.
Sur le trottoir.
Ouais. Et je vais la voir. Je lui dis, mais vous dansiez bien, petite fleur et tout. Elle me dit, oui, mais ça me rappelle avec mon mari quand on était jeunes, on habitait à Saint-Germain. On allait sous terre dans des caves comme le Blue Note et tout ça et en dansant ça me rappelle mon amour et tout. C'est des moments de grâce, des effleurements comme ça, de la vie, faire voir que d'un côté il y a évidemment la laideur du monde dont vous parlez forcément tous les jours ici, mais bon sang, pendant ce temps-là il y a des trucs beaux, tout comme par exemple en Bretagne j'ai vraiment vu un arbre, un conifère de 800 ans qui donne des cerises. Et c'est comme un symbole de la vie. L'arbre, il est absolument gigantesque.
C'est les OGM, non?
Et je sais pas comment est arrivée une graine de merisier là. Et ce tif protège le cerisier qui donne des cerises. Donc, c'est ça les miracles de la vie.
Comme une respiration, c'est donc ce premier recueil de nouvelles signé Jean Tellet qui reste avec nous, il me paraît, chez Julliard.